cadeau qui était vraiment, enfin un cadeau personnel pour moi, parce qu'ils en ont bien profité aussi, mais le cadeau personnel pour moi, c'était aller voir une pièce de théâtre, Le Roi Lion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grandes pièces de théâtre internationales. Et cette pièce de théâtre est vraiment belle, dans un grand théâtre. Et ils ont choisi la meilleure place, une des meilleures places. Ils ont choisi celles qui sont pratiquement devant. Alors j'étais heureux, j'étais tout content, je pars avec ma famille en voyage. Et on arrive là-bas, on arrive au théâtre, tout content devant le théâtre, on rentre, on a notre place devant. Waouh, super, on est heureux, on va voir un super spectacle. Et au bout de quelques minutes, avant que le spectacle commence, il y a des gens qui arrivent et qui se placent. Et là, il y a un géant qui arrive. Vous savez, c'est en général, quand vous le voyez au ciné arriver ou dans un théâtre, vous vous dites, pourvu qu'il ne se mette pas devant moi. Il y a un géant qui arrive, un homme vraiment costaud, grand, et il arrive, et vous savez où il s'assoit ? Devant moi, forcément. Devant moi. Et là, on se dit, mais j'ai voulu prendre la meilleure place. J'ai cru avoir la meilleure place. Mais finalement, ce n'était pas ce que j'attendais. Bon, vous imaginez bien que mes parents m'ont décalé et ils ont moins profité que moi de ce spectacle. Mais j'aimerais vous parler de l'histoire d'un homme qui a eu la meilleure place et à un moment dans sa vie, et surtout après sa vie, pensait avoir la meilleure place. Et il va être surpris. On va lire dans Luc 16. Luc 16, à partir du verset 19. Voilà, si vous voulez lire avec moi. C'est l'histoire d'un homme riche, d'un homme qui avait beaucoup de biens. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté dans les anges, par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. On va s'arrêter là pour l'instant. Le premier personnage qu'on voit dans cette histoire, qui est une histoire vraie, on voit un homme riche. On ne connaît pas son nom. Jésus ne nous dit pas son nom. Mais c'est un homme qui a beaucoup de biens. Un homme qui a des vêtements de pourpre, de fin lin. C'est un homme qui mène joyeuse et brillante vie. Quelle place ! Quelle place il a ! Beaucoup de ses amis viennent le visiter. Il est un peu comme un maître dans sa maison. Il est un peu comme un maître dans son quartier, dans son pays peut-être même. Il a une place exceptionnelle. Et parallèlement à ça, on voit un homme qui s'appelle Lazare. Cet homme se retrouve à la porte de ce fameux riche. Et ce Lazare, il a souffert dans sa vie. Il s'est retrouvé donc à cette porte sans rien, couvert d'ulcères, et même les chiens viennent lécher ses ulcères. Je ne sais pas si vous imaginez une personne remplie d'ulcères et les chiens qui viennent lécher avec leur langue un peu râpeuse, là. Ça devait peut-être le soulager un petit peu, mais c'est quand même une image particulière. C'est quand même une image qui repousse. Et si on avait à choisir, on choisirait le premier, forcément. On choisirait la meilleure place. Et cet homme se retrouve là. Mais il aurait bien aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Manifestement, le riche ne s'en occupe pas. Mais comment a-t-il fait pour tomber si bas ? Comment a-t-il fait pour être dans cette place désastreuse ? Il a dû rêver quelquefois, je pense, d'être à table avec ce riche. Il a dû rêver quelquefois de se dire, mais j'aimerais tellement rentrer, passer cette porte, rentrer dans cette maison, vivre cette vie joyeuse, cette vie de bonheur, avec tout cet argent, voilà, plus de problèmes de finances, plus de problèmes de santé. Combien il aurait désiré cette place ? Une place qui fait rêver, une place qui réjouit le cœur. À la fin du texte que nous avons lu, on voit que les deux hommes vont mourir. Et cette histoire, avec ses places particulières, prend une tournure inattendue. On va le lire ensemble, on continue la lecture à partir du verset 23. 22, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, on parle du riche, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Ils ont tous les deux une place dans leur vie. Mais ils ont tous les deux aussi une place dans l'éternité. Une place dans l'au-delà. Une place après la mort. Et Lazare monte dans un lieu de paix, de joie, de tranquillité. Un lieu de consolation. Alors que l'homme qui est riche arrive dans un lieu de tourment. Un lieu de douleur, dans une flamme. Il dira lui-même, je souffre dans cette flamme. C'est une réalité. D'ailleurs, il va demander à Abraham d'envoyer Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour le rafraîchir. Ça m'a étonné le parallèle qu'on peut faire entre avant et après. Lazare aurait aimé manger quelques miettes qui tombent de la table du riche. Et le riche, qui arrive dans l'éternité, aimerait tellement avoir quelques miettes du paradis. Quelques miettes, pour quelques gouttes d'eau, pour pouvoir se rafraîchir. Que s'est-il passé pour ce riche? Lui qui a mené une grande vie, lui qui a eu tout ce qu'il voulait, qui savait choisir les meilleures places pour sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il arrive dans ce lieu de tourment, quelle tragédie! Quelle tragédie! Cet homme a vécu heureux, on pourrait dire, mais l'éternité, ça l'a surpris. L'éternité, ça l'a surpris. Il s'est dit, mais arriver dans ce lieu brutalement, de coup tout lui tombe dessus. Non, mais il n'y a pas que la vie, il y a autre chose encore. Il a su avoir les meilleures places dans le monde, mais il n'a pas su préparer sa place pour le ciel. Il n'a pas su préparer sa place pour l'éternité. Et comment a-t-il pu manquer le coche? Comment a-t-il pu manquer sa place? Est-ce par ignorance? Ne pas vouloir croire? Souvent, on rencontre des gens dans la rue, sur le marché, voilà, quand on va parler aux gens, vous savez, il y a des choses surprenantes. On entend parfois des choses surprenantes. Des choses qui étonnent, des choses qui vous dites, bon, c'est pas trop d'où c'est sorti. Mais surtout quand on parle de la vie après la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un de la vie après la mort, mais on entend toutes sortes de choses. On entend que, par exemple, il n'y a rien. Certains disent qu'il n'y a rien après la mort. On arrive, on va dans un trou et puis il n'y a plus rien. C'est le vide. D'autres disent, et j'ai entendu récemment, je discutais avec un homme et on parlait justement de se préparer pour après. Se préparer pour après. Et cet homme va me dire, mais moi, je ne crois pas au paradis, je ne crois pas à l'enfer. Je crois à la réincarnation. La réincarnation. Vous savez ce que c'est la réincarnation? C'est quand on meurt, à l'instant où on meurt, on va dans un animal, dans un arbre, dans un nuage. Et on vit comme ça, dans un nuage, dans un animal. Alors ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, mais imaginez. Souvent on dit, oui, la réincarnation, je vais devenir un aigle. Je vais devenir un loup. Je vais devenir un arbre somptueux. Mais jamais personne ne s'est dit, mais je vais devenir un poulet dans une batterie et mourir au bout de quelques semaines. Non, mais il faut réaliser les choses. On se dit, mais la vie après la mort, forcément, c'est beau, c'est bien. Voilà, on sera dans la paix, dans la tranquillité. Certains disent, on devient une énergie. Alors, on transmet des énergies. Beaucoup cherchent à se rassurer. Ils cherchent à se rassurer par diverses théories. Dire, mais moi, je crois en ça, ça me rassure. Mais est-ce que ce n'est pas pour éviter aussi la vérité ? Pour ne pas accepter la vérité. Vous savez, vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez vous entêter et dire « Non, c'est comme ça !» Mais la vérité, elle est quand même dans la parole de Dieu. La vérité, c'est quand même ce qui est dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On le voit affiché sur ce mur. Il est la vérité pour ta vie. Même si tu veux peut-être te rassurer par diverses théories, par diverses façons de penser. Jésus veut te montrer la vérité. Il veut te montrer le chemin pour que tu puisses trouver la vie, encore cet après-midi. Ce riche va se rendre compte que les choix qu'il a faits n'étaient pas forcément les bons. Il va se rendre compte qu'après la mort, il y a quelque chose. Malgré qu'il ait voulu l'éviter, malgré qu'il ait voulu se dire « mais il n'y a rien, je suis tranquille, j'ai des biens. » Il y a quelque chose, mais c'est trop tard. Alors, comme il n'a pas choisi la bonne place, vu qu'il ne s'est pas soucié de son éternité, il va commencer à se soucier de l'éternité de sa famille. On l'a lu ensemble. On voit qu'il va demander à Abraham de ressusciter Lazare. Il se dit « mais si mes frères... si mes frères voient Lazare, au moins ils croiront qu'il y a la vie après la mort. Au moins ils croiront. » Et Abraham va lui dire, mais s'ils ne croient pas déjà à ce qu'ils entendent, comment pourraient-ils croire à quelqu'un qui ressuscite? Comment pourraient-ils croire? C'est vrai, on voit tellement de choses à la télé, tellement de choses dans les vidéos. Vous savez, il y a beaucoup de montage. Une fois, j'ai vu une vidéo, il y avait qui a fait le tour du monde d'ailleurs, on voyait un enfant dans un parc et on voyait un aigle gigantesque arriver attraper cet enfant et partir avec, et ça a fait carton dans tout le monde. Ils se sont dit, un aigle peut attraper un enfant? Et vous savez quoi, c'était des petits jeunes qui s'étaient amusés à faire de toutes sortes de montages vidéo. On est entouré tellement de choses trompeuses dans l'apparence. Tellement de choses qui nous font croire qu'il n'y a rien. Qui nous font croire qu'il n'y a rien après la mort, que Jésus n'existe pas. Combien nous entendons de discours disant que Jésus n'est jamais venu alors que c'est prouvé. Demandez à n'importe quel historien, il vous dira que Jésus est réellement là. Oui, ils vous diront, non, mais c'était pas le Messie, c'était un homme comme ça qui est venu de la part de Dieu, un prophète, ou c'était juste un messager, un pasteur. Et ils enlèvent le message de la croix, ils enlèvent le message de la rédemption. Alors, cet homme va ne pas se soucier de sa place. Et combien on aimerait acheter la place du paradis? Combien on aimerait acheter cette place? Et beaucoup ont essayé par l'argent. Vous savez comment? Avec de l'argent, on peut faire beaucoup de bonnes choses. On peut faire beaucoup de mauvaises choses, mais on peut faire beaucoup de bonnes choses. Alors, des hommes sont dit, pour avoir, entre parenthèses, une place au paradis, pour avoir une chance d'y aller, je vais commencer à faire du bien. Alors, ils vont donner leur argent autour d'eux, et bon, à des personnes en général qu'ils aiment bien. Hein, et ils vont donner aussi à des associations, tout ça, et ils vont soulager leur conscience. Vous savez, l'argent n'achète pas le paradis. Alors, ils vont essayer par les œuvres. Ils vont se dire, je vais essayer d'être le meilleur, d'être bien, de faire des bonnes actions. Il y a un homme, un jeune homme d'ailleurs, qui va voir Jésus et qui va dire, mais... comment aller au paradis? Et Jésus va lui dire, ben, suis les commandements. Cet homme va dire, mais j'ai fait ça. J'ai suivi tous les commandements. On voit que cet homme désire aller au paradis, il suit tous les commandements, mais il ne sait pas comment y aller. Il ne sait pas comment il peut trouver sa place au ciel. Alors Jésus va lui dire, abandonne toutes tes richesses et suis-moi. Il va lui dire, suis-moi. Et cet homme va partir tout triste. On voit que par les œuvres, et même parfois par la foi, par la religion, beaucoup vont s'attacher à des églises, vont s'attacher à toutes sortes de croyances pour soulager leur conscience en se disant, j'irai au paradis, je sais où je vais. Et on en a parlé jusqu'à maintenant. Alors, si tu as fait cela, si tu as essayé de racheter une conscience, de racheter une vie pour pouvoir hériter du ciel, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. La Bible nous dit que, en parlant de ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Tu peux te battre de toute ta force pour gagner ta place. Peut-être pour gagner une place dans un match de foot, ça peut marcher. Pour l'euro, je ne sais pas. Il va falloir essayer, je ne sais pas. Mais pour le ciel, malheureusement, ça ne marche pas. Tu peux te battre de toute ta force, donner toute ton énergie pour pouvoir avoir cette place. Tu ne l'auras pas. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a déjà acheté toutes les places. Il a acheté toutes les places, en plus, il a acheté toutes les places en VIP. Des places magnifiques, des places belles, des places où il y a le bonheur, des places où il y a la joie, des places où il y a des trésors. Quelqu'un a tout racheté. Ils ont ouvert pour reparler de l'euro, ils ont ouvert les caisses là pour acheter les places et il y en a déjà des milliers qui sont partis. Pour trouver une place, au fur et à mesure du temps, c'est difficile. Hein, et si tout le monde l'achète avant, c'est fini. Il n'y a plus de place. Et on voit que quelqu'un a racheté toutes les places. Le prix à payer était cher. Il était très cher. Un prix que personne ne pouvait payer. Nous sommes tous pécheurs, séparés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Et comme nous sommes tous pécheurs, par nos mauvaises actions, par nos paroles mauvaises, par le rejet de Dieu, le rejet contre Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs, nous ne pourrons pas avoir cette place. Mais parce que Dieu t'aime, parce que tu es important à ses yeux, tu es cette perle de grand prix. Peut-être tu te dis, mais comment je peux être important aux yeux de Dieu? Comment je peux avoir une importance aux yeux de Dieu? Moi qui suis un homme comme un autre, une femme comme un autre, moi qui fais des choses mauvaises, qui essaye de faire tant bien que mal, moi qui ai été rabaissé parfois, en disant « tu n'arriveras à rien ». Comment pourrais-je avoir du prix aux yeux de Dieu ? Simplement parce que tu es son enfant. Il t'aime et il t'appelle cet après-midi. Alors le prix a été cher. Le prix à payer était le plus grand. C'est celui d'un sacrifice. Et on l'a chanté pendant plusieurs chants. Ces paroles, on va les lire ensemble, si vous voulez, dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. « Prenez le roseau et le frappez sur sa tête !» Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, là-bas, lama sabachthani ». C'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et dans un autre, dans Luc ou dans Jean, on voit que ce cri, c'est « Tout est accompli ». On l'a chanté tout à l'heure « Tout est accompli ». Et Jésus rendit l'esprit. Amen. Jésus a payé. Il a payé un grand prix. Il a payé de sa vie, de son sang. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand on réalise que Jésus a vécu, quand on réalise la souffrance, quand on réalise combien il a été battu, violenté, moqué. Tout à l'heure, on a chanté un chant. Et à un moment, il y avait une phrase qui disait « La croix, c'était pour moi. La croix, c'était pour toi. » Tout ça, tout ce que Jésus a vécu, c'était à nous de le vivre. C'est nous qui n'avons pas voulu de Dieu. C'est nous qui avons chuté. C'est nous qui avons voulu faire le mal autour de nous. Mais Jésus a dit que c'était trop grand à porter pour nous. Que l'enfer, il nous aimait trop pour nous envoyer en enfer. Alors il a décidé de donner sa vie pour toi, donner sa vie pour moi. Et si tu lui demandes pardon, si tu te repens pour tes péchés, il te pardonne cet après-midi. À côté de lui, il y avait deux brigands. Et les deux l'insultaient. Et en regardant ce qui était en train de se passer, en regardant la scène, un des brigands va dire « Mais c'est le Fils de Dieu, c'est réellement le Fils de Dieu !» Un des brigands va se dire en lui « Mais c'est le Sauveur !» Il va se tourner vers Jésus. Et il va dire « pense à moi, quand tu reviendras dans ton règne. » Il va se repentir. Il va comprendre qui est Jésus. Il va comprendre qui est celui qui est sur cette croix, qui ne mérite pas, lui, l'innocent. Il va lui demander de penser à lui, de changer sa vie. Changer son éternité. Et vous savez ce que Jésus va lui dire ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Tu peux vouloir gagner ta place par l'argent, par les œuvres, par toutes sortes de choses. Même en te disant, mais ma famille est chrétienne, mes parents sont chrétiens. Peut-être que je passerai dans les mailles du filet. Mais tout ça ne sert à rien. On sera seul devant Dieu. Le seul moyen pour aller à lui, le seul moyen pour trouver la vie éternelle, c'est de venir à Jésus, de venir à la croix et de lui demander pardon pour nos péchés. Et aujourd'hui, Jésus peut te dire, tu seras avec moi dans le paradis. Pour finir, avant de prendre un chant, je voulais vous lire ce verset de Ésaïe 44, 22. Ésaïe 44, 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté.